une convergence entre les intérêts de la plateforme, les intérêts des dirigeants de TikTok, et les intérêts du parti. C'est-à-dire que plus la plateforme pénètre les sociétés étrangères, plus elle est omniprésente, plus elle gagne de l'argent, et plus elle est omniprésente, plus elle est utile pour le PCC.
Le PCC, le Parti communiste chinois, est-il en fait le véritable patron de TikTok? On va voir cela ensemble. Willkommen, bienvenue dans Théma. Vous, parti, vous ou vos proches, du milliard et demi d'utilisateurs de TikTok qui chaque jour regardent des vidéos au contenu plus ou moins divertissant. Née en 2017, cette application a aujourd'hui le plus grand réservoir de données personnelles. Comme elle est chinoise et qu'en Chine, rien ne se fait sans l'aval du régime, TikTok mérite une enquête. Présent dans les instances de l'entreprise, l'État récolte quantité d'informations sur les utilisateurs et peut donc tout savoir d'eux, notamment s'ils sont sensibles aux aspirations démocratiques, comprenez par là aux idées combattues par Pékin.
Six lettres comme un slogan, lisible et prononçable partout dans le monde. Six lettres comme l'incarnation d'un engouement irrésistible, comme le symbole d'une viralité presque despotique. Née en 2017, l'application chinoise de partage de vidéos s'est imposée comme l'un des réseaux sociaux les plus populaires de la planète, avec plus d'un milliard et demi d'utilisateurs. Porteur d'une véritable révolution technologique, devenu le plus formidable réservoir de données personnelles, il s'est invité au cœur de tous les enjeux économiques, sociétaux et politiques d'aujourd'hui. Comment fonctionne cette machine TikTok? Pourquoi certains pays l'ont déjà banni et d'autres s'interrogent? Quelle peur et quel danger suscite-t-elle? Qualifiée de bras armés de Pékin, comment s'est-elle imposée au cœur de la confrontation entre la Chine et les États-Unis? Commerciale et géopolitique, risque-t-elle de dégénérer un jour en un autre type de conflit? Pour comprendre comment un simple réseau social, aussi populaire soit-il, façonne les lignes de fracture de notre modernité, structure les rapports de force contemporains et dessine un nouveau désordre mondial, il faut revenir en arrière et retourner là où tout a commencé. Ça commence en 2012. C'est dans un appartement de cette modeste résidence de la capitale que le futur inventeur de TikTok crée une start-up spécialisée dans la création d'applications numériques, la société ByteDance. L'homme s'appelle Chang Yiming. Il a 29 ans.
Il s'est impliqué dans plusieurs startups chinoises qui n'ont pas perduré, mais qui ont connu une certaine croissance. C'est quelqu'un de très intelligent et de très compétent. Je dirais que c'est plus un geek qu'un ingénieur. Il a travaillé pour des entreprises américaines de la tech comme Microsoft en Chine. Donc il connaissait le marché mondial.
Incertitude, qu'il accueille à bras ouverts. C'est sa marque de fabrique. Et il a été très influencé par plusieurs personnalités américaines de renom.
Quelques mois avant la création de ByteDance, est sorti The Social Network, le film de David Fincher, qui raconte la création de Facebook.
I need to do something substantial in order to get the attention of the clubs.
Why?
Because they're exclusive and fun, and they lead to a better life.
L'irrésistible ascension de Mark Zuckerberg fascine Chang Yiming. Comme le jeune entrepreneur américain, il a l'ambition folle d'exercer une influence sur ses contemporains, d'inventer lui aussi un nouveau monde.
Au début de sa carrière chez ByteDance, il a beaucoup dévoilé sa personnalité. Il publiait souvent des posts sur les réseaux sociaux dans lesquels il parlait de sa façon de diriger l'entreprise et de sa philosophie.
La vision est ce qui unit le cœur des gens. La mission nous responsabilise.
Son objectif premier, c'était de trouver comment aller toujours plus vite, comment être plus efficace et plus compétitif.
Investisseur dans la tech asiatique depuis 30 ans, Duncan Clark a participé directement à cette décennie 2010, durant laquelle la Chine a privilégié l'innovation, la créativité, associée à une certaine forme de liberté. Le PCC, le Parti communiste chinois, ayant eu alors l'habileté de rester en coulisses.
En Chine, les entreprises d'État n'étaient pas très douées pour innover. Alors le gouvernement a autorisé des entrepreneurs privés à lancer de nouveaux modèles économiques. Et en 2012-2013, une nouvelle génération d'entreprises est apparue.
Baidu était le moteur de recherche le plus consulté. Et Alibaba se taillait la part d'union du commerce en ligne. Et Tencent a lancé WeChat, qui est très vite devenue l'une des plus grosses super applications en Chine.
Baidu est l'équivalent de Google, Alibaba d'Amazon, Tencent de WhatsApp. Ils forment avec Xiaomi, le fabricant de téléphones portables, ce qu'on appelle les BATX, la réplique des GAFAM américains. Ces géants du numérique se développent dans leur espace respectif, l'intérieur de la Chine pour les BATX et le reste du monde pour les GAFAM. Deux espaces totalement séparés par ce qu'on appelle la grande muraille numérique.
L'environnement numérique chinois est partiellement coupé du reste de l'Internet mondial. Coupé, c'est pas un intranet, c'est pas en circuit fermé. Mais c'est partiellement coupé, c'est-à-dire que les points d'accès, si vous voulez, au réseau Internet mondial sont extrêmement contrôlés par le pouvoir. Et que vous connectez à l'Internet, il y a tout un tas de sites qui ne sont pas accessibles.
Interdit ainsi la présence des GAFAM pour éviter la propagation des idées libérales au sein de sa population. Mais cela ne l'empêche en rien d'apparaître comme un Eldorado pour la tech américaine.
Le développement d'Internet s'est toujours fait en parallèle aux États-Unis et en Chine. En 2012, j'étais responsable d'un enseignement sur l'ouverture grandissante de la Chine à Internet. Le pays était donc perçu comme un pôle d'innovation dont on commençait à apprendre des choses, notamment en matière de paiement et de jeux en ligne. 2012 a vraiment été l'âge d'or de la technologie chinoise et des relations sino-américaines. Mais depuis, ça a tellement changé qu'on se croirait sur une autre planète.
Du côté de la Silicon Valley, avec tellement de convoitises, il veut marquer la tech chinoise de son empreinte. Pour cela, il va lui falloir trouver la bonne idée.
Au collège, il avait un passe-temps. C'était lire le journal. Il est né dans la province du Fujian, dans une région reculée, entourée de montagnes. C'était difficile pour lui de s'en échapper pour découvrir le monde. Et difficile aussi d'avoir des informations. C'est pour ça qu'il lisait le journal d'aussi près, avec autant d'intérêt. Ça le passionnait.
De moins en moins de gens lisaient la presse papier. Et les kiosques à journaux, qui étaient très répandus en Chine, se faisaient de plus en plus rares. Et il y avait donc un changement dans les habitudes des consommateurs, tant dans leur façon de consommer l'information que dans les contenus choisis.
Attaquer le marché de la presse en ligne. Pour s'imposer, Chang Yiming invente un algorithme de recommandation révolutionnaire qui connecte l'information à son lecteur. En août 2012, il lance l'application Tou Chao, les titres du jour.
Chaque instant,
Moi, Douyin attire 1 million d'utilisateurs par jour. L'application devient la première plateforme de partage d'informations de Chine, avec quelque 700 millions d'abonnés. Une réussite phénoménale.